Sébastien Pla, sénateur de l'Aude, et je précise bien de l'Aude, c'est le sujet de cette deuxième partie de l'émission, et justement vos actions ciblées, parce que on est sénateur de la nation comme député, mais on est aussi sénateur d'un territoire, et en tant que sénateur de l'Aude, vous avez des actions spécifiques. Par lesquelles souhaiteriez-vous commencer, monsieur le sénateur ?
Oh, mais elles sont nombreuses, parce que nous sommes un peu la courroie de transmission entre le territoire et le national et le législatif. Donc, à chaque fois qu'une collectivité, une structure professionnelle, une organisation professionnelle ou autre éprouve des problèmes par rapport à la loi, bon, voilà, on est là pour essayer de trouver des solutions.
On va voir et le député et le sénateur.
Voilà, tout à fait.
Et est-ce que, par exemple, l'action d'un sénateur par rapport à celle d'un député est différente ?
Ben, l'action d'un sénateur doit normalement être beaucoup plus conscrite aux questions qui occupent les collectivités locales, hein, les communes, les départements, les intercommunalités, éventuellement les organisations professionnelles, moins le concitoyen. Alors, le député a normalement un travail très spécifique auprès de nos concitoyens pour répondre à leurs problèmes du quotidien,
oui,
plus
oui,
que
oui,
pour les institutions. C'est le propre même de celles et ceux qui nous élisent.
Oui, oui,
voilà.
Oui, d'accord.
Cela dit, il y a de la porosité. Je reçois énormément de concitoyens pour essayer de résoudre leurs propres problèmes. Mais bon, c'est jamais facile.
Enfin, la spécificité pour un sénateur, c'est plutôt le collectif, les collectivités locales, par exemple.
Exactement.
Alors, vous aviez, je sais que vous menez une action sur la ville de Limoux et l'hôpital. Expliquez-nous, monsieur le sénateur.
Ouais, justement, lorsque j'étais élu il y a 3 ans en arrière, il y avait 2 problèmes sur ce territoire. Le besoin d'un équipement structurant, donc le fait d'investir sur un scanner, et un autre problème lié malheureusement aux inondations à Saint-Hilaire avec la destruction complète de l'EHPAD de Saint-Hilaire. Et un dossier qui était un petit peu au point mort, avec des risques que la reconstruction ne se fasse pas.
Oui, Saint-Hilaire à côté de Limoux.
Tout à fait. Et Saint-Hilaire qui était un ancien chef-lieu de canton et dont cet EHPAD était structurant pour l'ensemble du territoire puisqu'en proximité des familles, des personnes hospitalisés et puis un bassin d'emploi autour de l'EHPAD, puisqu'autour de l'EHPAD, hein, vous avez l'ensemble des structures de soins qui vont avec, donc ça a généré de l'emploi sur la commune de Saint-Hilaire. Donc il a fallu que je m'emploie en sollicitant à plusieurs reprises le ministre de la Santé à travers des questions orales, des questions écrites, voire des sollicitations verbales. Un travail fait aussi de fond avec l'ARS qui semblait assez sur la retenue sur ces projets-là. Et avec l'ensemble des élus du territoire, force de se battre, notamment le maire de Limoux, Pierre Durand, qui est président aussi de l'hôpital, nous avons réussi à obtenir gain de cause et le scanner de Limoux, donc cet équipement important pour le développement de l'hôpital de Limoux, est arrivé il y a une dizaine de jours. Donc vous voyez, ça fait 3 ans que l'on se bat.
L'aboutissement
de 3 ans de travail. Et pour l'EHPAD, le directeur régional de l'ARS a annoncé il y a un mois en arrière les moyens financiers pour la reconstruction de l'EHPAD, ce qui n'était pas acquis et garanti. Alors voilà, mon boulot, il est là, hein, c'est vraiment de solliciter les ministères. Moi, je suis pas là pour me faire des amis au niveau national, hein. Je suis là pour répondre aux problèmes du territoire. Donc quand ça va pas, j'essaie de le dire. J'essaie de soutenir les causes qui me paraissent justes. Voilà, on parlera, je pense, de la viticulture tout à l'heure.
On va y arriver, bien sûr.
Mon boulot, c'est d'aider celles et ceux qui sont en difficulté. Je suis là pour leur rendre service. Voilà, si vous n'avez pas de soucis, venez pas me trouver.
Et alors, justement, la méthode, c'est peut-être les questions que les gens se posent. La méthode, vous l'avez implicitement décrite, monsieur le sénateur. Donc, c'est vous allez à Paris voir les interlocuteurs qui ont le pouvoir. En fait, c'est ça.
Hein. C'est ça. C'est notre boulot. C'est la courroie de transmission entre le territoire et le problème du territoire, et le législatif au national, et les ministères, qui ont les moyens d'agir.
Voilà, sachant que le pouvoir et l'argent sont là-bas.
Voilà, et c'est lié, et c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la majorité que vous n'arrivez pas à résoudre des solutions. Enfin, moi, j'essaie de travailler en bonne intelligence avec tout le monde, et en particulier avec les membres aujourd'hui du gouvernement. Mais bon, je suis pas là pour, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour me faire des amis. Moi, l'intérêt, c'est que les dossiers avancent, c'est tout. C'est ma boussole. Le reste.
Mais la méthode reste toujours la même, à peu près.
Toujours.
Alors, arrivons-en, monsieur le sénateur de l'Aude, à un des gros morceaux, à des gros problèmes actuels, c'est la vigne. Alors, la vigne avec, au sens très large, économique, mais aussi écologique, sociologique, etc.
Ben, la vigne chez nous, c'est notre ADN, hein. Elle est là depuis, elle est présente depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui, le monde viticole, le monde agricole déjà va mal, et le monde viticole subit de plein fouet un enchevêtrement et un empilement d'aléas depuis avant le Covid, en fait, hein, depuis la taxe Trump, hein, sur les problèmes qu'il y ait liant Airbus et Boeing. Chaque année, le monde viticole a connu des problèmes derrière ces problèmes climatiques avec la sécheresse, avec des problèmes de gel, le mildiou l'année dernière, des problématiques liées à l'inflation, parce que malheureusement les produits ont augmenté très fortement ces dernières années. Et puis, en dessus de tout, la question du marché. Et une baisse, une déconsommation de vin en général, et en particulier de vin rouge, à la fois en France, mais aussi à l'international, qui fait que aujourd'hui, là, le monde viticole est en grande difficulté, en grande souffrance. Vous avez dû le voir, le Bordelais a demandé de l'arrachage, a obtenu de l'arrachage. Donc c'est quand même pas bon signe. Et puis, il y a 15 jours, nous étions, j'étais présent, 6000 en Narbonne, voilà, pour dénoncer les problèmes. Et par-dessus le marché, en plus de ça, on se fait attaquer par des lobbies anti-alcool qui font tout pour essayer de taxer le prix du vin. Donc c'est pas le moment d'ajouter de la difficulté de la crise à un secteur agricole qui est en crise profonde, et en particulier chez nous, sur le pourtour méditerranéen, depuis que l'on prend le réchauffement climatique en pleine figure. Il suffit d'aller à Le Cat, à La Palme, pour vous apercevoir des dégâts. Donc moi je suis pas persuadé que dans les années à venir nous arrivons à conserver un vignoble tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Tel qu'il est aujourd'hui.
Moi je me bats beaucoup avec l'ensemble des organisations professionnelles, que ce soit le syndicat vigneron, la fédération des caves coop, les vignerons indépendants et la chambre, pour faire des propositions, y compris avec France Agrimaire, au niveau national et ministériel, à la fois pour répondre aux problèmes conjoncturels, c'est-à-dire aux problèmes de trésorerie à la fois des entreprises viticoles, mais aussi des exploitants.
L'immédiat,
quoi. C'est-à-dire les sauver, nous maintenir
nos
exploitants,
les
maintenir à flot, et ensuite travailler sur le structurel, le long terme, pour pouvoir répondre à cette question, notamment du changement climatique, aux questions de marché, la problématique de la baisse de la consommation, parce que la viticulture n'est pas une agriculture subventionnée comme peuvent l'être d'autres agricultures, notamment
par la PAC.
Et moi, je ne souhaite pas qu'elle le devienne, et les organisations professionnelles non plus. C'est une économie à part entière qui fait l'image de la France à l'international. En termes de balance extérieure, on pèse 10 milliards d'euros, donc c'est pas neutre. C'est une véritable économie qui ne peut s'en sortir que par le marché.
Et alors, curieusement, justement, sur ce que vous dites, Sébastien Plat, l'image du vin, c'est du prestige au niveau international et dans les hautes sociétés, si vous me permettez cette expression. Mais il y a encore un lobby anti-vin actif et même parfois extrême ou extrémiste.
Ah oui, totalement. Déjà, d'une part, l'image du vin, c'est l'image de la gastronomie, de la convivialité, art de la table, c'est la culture française, c'est notre histoire, le vin.
Dans le monde entier, quand même, oui.
Évidemment.
C'est encore aujourd'hui, que je sache.
Oui. Les beaux domaines, les grandes cuvées, les belles cuvées sont pas en crise.
Oui,
le vin de grande qualité se vend très bien, notamment à l'export. Mais la déconsommation existe fortement. Et c'est pas nouveau, hein, depuis la loi Evin et même avant. On a une espèce de bien-pensance là, ou d'hygiéniste qui n'ont pas compris que les principaux maux de l'alcoolisme, ne sont pas liées à la surconsommation de vin. Il ne faut pas s'attaquer au vin ou à l'alcool, mais il vaut mieux s'attaquer aux maux qui sont des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, de famille. C'est la société aujourd'hui qui est mal à l'aise, qui a mal-être, et qui fait qu'elle se détourne vers des addictions à l'alcool, aux drogues et au reste.
Sauf à propos d'alcoolisme, justement, on confond forcément vin et alcoolisme. Par exemple, votre prédécesseur, M. Courteau, s'était battu aussi contre cette espèce de confusion volontaire.
Parce qu'on veut nous amener vers ça. Et on veut nous amener vers ça parce qu'en termes de communication et d'image, c'est plus facile d'illustrer l'alcoolisme avec une bouteille de vin qu'avec une bouteille de whisky, par exemple.
Ce qui est quand même étrange, parce que c'est pas le même degré d'alcool, déjà.
Non, pas du tout, et puis c'est un aliment aussi, le vin. Donc, le problème, c'est que nous sommes régulièrement attaqués. Ce sont des gens qui inventent régulièrement des systèmes. Récemment, on nous a amenés au Sénat à nous prononcer au projet de loi des finances sur la taxation des degrés d'alcool, et donc la taxation du vin. Donc je suis battu avec des collègues, contre d'ailleurs des collègues sénateurs qui avaient fait cette proposition, pour que cette disposition ne passe pas. J'ai reçu des menaces, on m'a traité de dealer.
Ah oui,
ça allait très loin. Donc traiter de dealer quand même, bon, c'est un bandit, un mafieux, je suis pas un dealer de vin, hein. Moi je suis quelqu'un qui défend une filière viticole.
C'est-à-dire qu'on assimile le vin à un trafic de drogue.
De drogue, tout à fait.
C'est incroyable.
Mais les personnes qui sont dans l'outrance font ça pour obtenir de l'audience, ni plus ni moins, et pour exister.
Oui, mais
alors qu'ils ne comprennent pas du tout, et ils se moquent éperdument de tout ce qu'il y a autour de l'écosystème du vin. Le vin, c'est quoi? La vigne, c'est quoi? C'est nos territoires, c'est des femmes et des hommes qui habitent dans des zones rurales qui sont très difficiles aujourd'hui. Si demain il n'y avait pas cette économie-là, ben, je ne sais pas comment fonctionnerait le département. Et dans certaines zones de notre département. Et au-delà, ce sont des gens passionnés par leur territoire, passionnés par ce qu'ils font, et laissons-les tranquilles, quoi. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'outrance est la priorité, la majorité des choses. Donc du coup, on répond à l'outrance par la mobilisation. Moi, je suis très heureux et très fier que les vignerons, l'ensemble du sud de la France, soient réunis. Au-delà de ça, les chasseurs, les maires des communes rurales, pour exprimer leur malaise et leur mal-être. Parce que derrière les attaques sur le vin, c'est aussi des attaques en direction de la ruralité.
Oui, c'est ça, j'allais dire.
Moi, j'habite dans un village de 150 habitants, et j'y habiterai et j'y resterai toute ma vie. Et c'est pas facile de vivre chez nous. Et on a effectivement l'impression d'être des citoyennes parfois de seconde zone. Parce que, on a des problèmes de certification médicale, des problèmes d'accès à la téléphonie, à Internet. On attaque nos agriculteurs. Bon, c'est quand même compliqué. Mon boulot, c'est de les défendre et de défendre cette ruralité, parce que je la vis.
Pour certains, cette ruralité-là serait devenue ringarde en France.
Oui, peut-être il y a ça aussi. Et puis,
mais
surtout
est-ce que c'est ça
par mes connaissances, je suis désolé, les zones rurales, c'est pas uniquement le lieu de vacances, de villégiature une semaine par an. Pour comprendre comment ça se passe, il faut venir l'hiver chez nous. Et là, on comprendra mieux et on pourra en parler. Et c'est dommage d'aller vers ça. Voilà. Moi, mon combat principal, c'est l'Aude est un département rural. C'est de défendre cette ruralité, de défendre nos traditions, la pêche, nos chasseurs, nos viticulteurs, nos vignerons et nos entreprises. C'est tout. Et ne tombons pas dans un débat stupide. Chacun est libre de vivre et de choisir la manière dont il vit chez lui.
On marque une seconde pause, Sébastien Plat. Vous avez parlé de pêche, on y reviendra un petit peu aussi pour évoquer un petit problème passager. Et dans cette troisième partie, on évoquera alors d'autres problématiques qui touchent non seulement le sénateur, mais également le citoyen. À tout de suite.